J'avais 20 ans en 1940. Témoignage d'une médaillée de la Résistance. Préambule. Pour cerner au mieux la réalité dure, impitoyable, ce témoignage emprunte le ton du récit oral. D'où les tournures simples, usuelles, les phrases courtes, maintien des répétitions, qui modèrent le lyrisme. Puisse ce style soutenir l'authenticité. Introduction. Ce récit qu'aujourd'hui, 50 années après, j'entreprends de transcrire, n'a pas pour but de mettre en évidence mon attitude pendant les années difficiles de l'occupation. Mon parcours de résistante active de fin 1940 à 1942, soit 2 années, fut aussi celui d'un certain nombre de Français et de Françaises, peu nombreux à l'époque. Ma captivité de 1942 à 1944, dans les prisons françaises et allemandes, fut le sort commun à beaucoup de mes compatriotes sous l'occupation. Pour certains d'entre eux, si leur détention fut à peu près semblable au récit qui va suivre, l'épilogue en est infiniment plus tragique puisque son dénouement se traduisit par une condamnation à mort ou par la déportation qui, elle aussi, aboutit à la mort lente après des souffrances indicibles. Leurs souvenirs exigent, à nous survivants, quand nous entreprenons de relater de ces événements la part qui nous concerne, de le faire en toute humilité. Il s'agit plutôt d'un message à l'intention de ceux qui, à différents titres, me sont chers et qui sont aujourd'hui, et qui aujourd'hui profitent d'une liberté que l'on ne peut, hélas, apprécier que lorsque l'on en est privé. Pour qu'ils sachent, au vu des sacrifices consentis et des souffrances endurées par leur aîné, combien cette liberté est précieuse et mérite d'être défendue. D'autant plus défendue qu'elle sera menacée tout le temps que les hommes oublieront les leçons du passé. Pour qu'ils soient vigilants face à la renaissance, toujours possible du fascisme. Pour qu'ils puissent chaque matin ouvrir sur la vie une fenêtre sans barreaux. Germaine Guérin-Terrasson, Françoise pendant la Résistance. Chapitre 1. La Résistance. Je dois me replonger plus de 50 ans en arrière. J'ai connu la Résistance à ses débuts, c'est-à-dire à l'arrivée des Allemands jusqu'à la fin 1942. J'ai été arrêté le 22 décembre 1942. L'armée de l'ombre, ou Résistance, n'était pas une armée classique. Le résistant ne recevait pas d'ordre de mobilisation, c'est sa conscience qui lui dictait son devoir. L'ennemi était partout, dans la Gestapo, dans l'armée allemande, dans la milice de Pétain, et parmi la police et la gendarmerie française. On devait se méfier de tout le monde, des collègues de travail, des amis, même de la famille à qui nous ne devions pas faire de confidences. Par exemple, chez moi, ma mère était aussi de la résistance. Elle ne me disait rien de ses activités, pas plus que je ne lui faisais part des miennes. Comment on entrait en résistance ? Pour ma part, je faisais partie d'un groupe de jeunes, les auberges de la jeunesse. Plusieurs camarades, déjà engagés par leur opinion antifasciste, m'ont convaincu facilement de faire partie de leur groupe. Il s'agissait du Front National appelé pour les jeunes FUJP. Le Front National n'avait rien de commun avec le Front National actuel, ce mouvement d'extrême droite raciste. C'était le Front National pour la libération et la renaissance de la France. Je me suis retrouvé rapidement responsable avec un autre camarade, Gilbert Pinault, de groupe de jeunes de l'Eure-et-Loire. Nous étions régulièrement en contact avec un interrégional qui nous donnait des directives. Que faisions-nous dans la résistance ? Il s'agissait surtout de faire une propagande anti-nazie. Nous distribuions des tracts et des journaux que nous imprimions avec des moyens de fortune. Nous recevions aussi, de Paris, des documents qui nous arrivaient par le train. J'allais les chercher à la gare. Cette activité me valut une mésaventure qui aurait pu avoir des conséquences fâcheuses. Ayant récupéré en gare la valise d'imprimé, je reviens d'un pas alerte le long du boulevard. La valise, quelque peu fatiguée, s'ouvre inopinément et ma précieuse cargaison se répand sur le trottoir. Catastrophe ! Sous l'œil indifférent ou amusé des passants qui ne soupçonnent pas la nature subversive du contenu, je ramasse fébrilement le tout dans la valise défaillante que je referme de mon mieux. Je repars en la portant avec précaution. S'il se fût trouvé un policier curieux ou un Allemand trop prévenant à ce moment, ma valise, contrairement au jeu d'une station de radio célèbre, ne m'aurait pas rapporté gros, mais aurait pu me coûter cher. Mes activités m'amenaient aussi à faire de fréquents déplacements de Dreux, mon domicile, à Chartres. Il m'est parfois arrivé d'avoir, dans mes bagages, en plus des tracts, des armes telles que revolvers et grenades. Ces transports d'armes peuvent, aujourd'hui, paraître dérisoires. Il est vrai, avec le recul, qu'on peut le penser. Néanmoins, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. La résistance en est à ses débuts. Elle est faite d'une foule d'actions individuelles qui ont moralement, sinon stratégiquement, leur importance. Il faut aussi se représenter les risques. Eux ne sont pas dérisoires. Que l'on soit pris avec une arme ou avec un arsenal, la peine est la même, la mort. Dans ces transferts, quand ils s'effectuaient par le train, j'avais toujours deux bagages. L'un que je gardais à portée de main, l'autre, le plus dangereux, que je mettais dans le filet du wagon. En cas de contrôle, j'aurais juré qu'il ne m'appartenait pas. La distribution de tracts se faisait souvent à bicyclette dans les rues. Moi, personnellement, je les jetais sur la chaussée, en roulant. Il fallait évidemment éviter les patrouilles allemandes qui faisaient souvent des rondes. Quand je partais à mon travail, distant de 4 km de mon domicile, je faisais une distribution tout au long de la route. Il nous arrivait aussi, de temps en temps, d'en envoyer par courrier chez des sympathisants pour les renseigner et les inciter à nous rejoindre. À mes jours de repos, j'allais à Chartres les apporter aux responsables de groupe. Je faisais ces déplacements soit à bicyclette, soit par le train. Dans un sens comme dans l'autre, il y avait toujours un risque, un barrage à l'entrée de la ville ou un contrôle dans le train. Dans la résistance, on se connaissait généralement par un nom d'emprunt. On travaillait par groupe de trois. Il n'était pas question de faire de grandes réunions. On se retrouvait chez un copain qui ne risquait pas d'être compromis ou à la campagne en se promenant. Je faisais aussi l'agent de liaison à la mairie où une cousine me donnait tous les renseignements possibles sur ce qui pouvait se passer en ville. Notre travail consistait aussi à cacher des clandestins recherchés par la police. Ensuite, il y a eu les réfractaires du STO, service du travail obligatoire, qui refusaient de partir travailler en Allemagne. Il fallait leur procurer des cartes d'alimentation et leur trouver une planque. Malgré toutes les représailles dont nous étions victimes, la résistance grandissait de jour en jour. Après les fusillés de Chateaubriand et de Nantes, qui firent tant de victimes, la colère a été grande parmi les Français. Les mouvements de résistance se sont développés rapidement. On ne peut parler de la résistance sans parler de Jean Moulin, qui réussit à réunir tous les représentants des mouvements de résistance dans une organisation centrale, le CNR. Il comportait socialistes, communistes, démocrates chrétiens, alliances démocratiques, fédérations républicaines ainsi que les représentants des organisations syndicales, en tout 17 membres. C'était l'unification de la résistance. Jean Moulin, président du CNR, était délégué du général de Gaulle. La première réunion eut lieu le 27 mars 1943. Il ne faut pas oublier que sans la résistance, le débarquement n'aurait pas eu lieu et donc la libération de notre pays impossible. La résistance a préparé le terrain en donnant des renseignements précieux aux Anglais et aux Américains. Changement de secteur. Début novembre 1942, Gilbert Pinault, basé à Caen, me demande de le rejoindre. Je prends mes dispositions pour organiser mon départ de Dreux. C'est ainsi que j'arrive à Caen fin novembre 1942. J'ai alors 22 ans. Gilbert Pinault, arrivé sur le terrain depuis quelques mois, est chargé d'organiser une section jeune du Front National dans le Calvados. Une jeune résistante de 20 ans, Gisèle Guillemot, est déjà à ses côtés. À nous trois, nous devons former le triangle de direction du Front National des Jeunes du Calvados. Nous continuons ici ce que nous avons commencé à Dreux. Recrutement de jeunes, information et explication, établissement de contact avec les autres mouvements de résistance, confection et distribution de tracts subversifs. Sous l'égide de Gilbert Pinault, connu dans la clandestinité sous le nom de Georges, principal responsable du Front National des Jeunes, des regroupements s'opèrent, notamment avec des groupes de FTP, francs-tireurs partisans. L'activité du groupe s'étend à la préparation d'opérations de sabotage des voies ferrées, afin de provoquer le déraillement de convois de matériel ou de soldats allemands permissionnaires. C'est à cette époque que je fais la connaissance de Marius Cyr, Kléber, Joseph Étienne, Jean, Jules Godefroy, dont le foyer est accueillant pour tous ceux qui sont en difficulté. Ils sont respectivement responsables du Front National Adulte et des FTP. Ce sont là des résistants émérites, sachant prendre des risques. Parallèlement à cette activité clandestine, il me faut organiser ma vie au grand jour. Et puis, il faut bien vivre. Je trouve rapidement un emploi de vendeuse au Monoprix, une activité qui, le cas échéant, pouvait me servir de couverture. Chapitre 2. Mon arrestation. En décembre, à la suite d'un vol d'explosifs, la police française procède à des arrestations de résistants. Sous la menace et la torture, certains passent aux aveux. Ce 22 décembre, je dîne à l'Oasis, une pension de famille située rue des Jacobins. La religieuse qui fait le service me prévient qu'un gendarme me demande à l'entrée. Que se passe-t-il? Que dois-je faire? Je suis hésitante, mais ne voulant compromettre personne, je me rends à cette inquiétante invitation. Le gendarme préposé m'attend. Vous êtes bien Germaine Guérin? Oui, c'est bien moi. Il m'ordonne de le suivre, ce que je fais. Il n'est pas bavard, mon gendarme. Nous effectuons à pied le trajet jusqu'à la gendarmerie sans échanger une parole. Il est vrai que moi-même, dans ces circonstances, je ne suis guère loquace. Arrivé à la gendarmerie, je suis introduite dans une pièce où, derrière un bureau, trône un gros lourdeau de capitaine. Visiblement, il m'attend. Il est écarlate de colère et se contient difficilement. Brutalement, il m'arrache mon sac d'où il extrait, avec quelques affaires personnelles, des tracts anti-allemands, spécimens qui devaient être prochainement imprimés. Il les brandit comme un trophée, pensant avoir mis la main sur une dangereuse terroriste. Commence l'interrogatoire traditionnel. Identité, âge, domicile, profession, lieu de naissance, etc. Puis, il passe aux choses sérieuses. Pourquoi as-tu ces tracts en ta possession? Je les ai trouvés. Faux. Qui te les a donnés? À qui devais-tu les remettre? Parle. Justement, je ne dois pas parler. Parle. Je les ai trouvés. Bien. Qui te les a donnés? Avec qui complotes-tu? Je ne complote avec personne. Je ne sais de quoi vous voulez parler. L'interrogatoire est long et pénible. Sans cesse, les mêmes questions reviennent. Je résiste. Je ne parlerai pas. Je me borne à dire que j'ai trouvé ces tracts et je ne varierai jamais dans mes affirmations. On me laisse enfin dans le bureau des gendarmes. Ceux-ci discutent entre eux. Que disent-ils? Que savent-ils? Peut-être parlent-ils de toute autre chose. J'essaie de cacher mon anxiété. Je crois comprendre que le commandant, malgré leurs demandes, refuse de me voir. Surtout pas d'ennui. Finalement, je passe la nuit du 22 au 23 dans le bureau des gendarmes où l'on m'a mis une paillasse. Très étroitement surveillé, je ne suis jamais seul. Même pour les toilettes, je suis accompagné. Le capitaine pense avoir contre moi une arme secrète. Il a trouvé dans mon sac un carnet où est mentionné un certain Georges. Ce résistant est recherché et ce prénom a été cité au cours des interrogatoires subis par les jeunes résistants arrêtés dans les mêmes jours que moi. En l'occurrence, les gendarmes voulaient parler de Georges Pinault. Mettant le carnet sous mes yeux, le capitaine me demande à brûle-pourpoint « Qui est Georges ?» Sans me démonter, je réponds « Mon fiancé. » Et c'est vrai. Mine incrédule de mon inquisiteur. « Je vous assure, c'est mon fiancé. » Il est prisonnier en Allemagne. Vous pouvez vérifier. Le capitaine est ébranlé. C'est bien, nous vérifierons. Ce qui fut fait. Georges Terrasson, mon fiancé, me l'a fait savoir à son retour de captivité. Au soir du 23, Je m'apprête à passer une deuxième nuit au poste de gendarmerie. Les gendarmes vont et viennent, et je suis là, sans savoir ce qu'il va advenir. Je suis dans l'incertitude, passant alternativement de l'espoir au découragement. Mon système de défense les ferait-il douter de ma culpabilité ? Mais pour que je sois là, qui a parlé ? Qui m'a dénoncé ? Au matin du 24, les interrogatoires reprennent. Je ne parle toujours pas. J'ai trouvé les tracts. Je ne connais pas les personnes dont vous me citez les noms. J'ignore pourquoi je suis ici. Sans cesse les mêmes questions, toujours les mêmes questions. Quand de guerre lasse vont-ils s'arrêter de me questionner ? Il semble, en fin d'après-midi de ce 24 décembre, qu'ils vont changer de technique. Peut-être les fêtes de Noël y sont-elles pour quelque chose. Qu'elle aille au diable, cette entêtée péronnelle. Ce soir, c'est le réveillon. C'est la fête en famille. Il faut en finir. On m'informe qu'en prévision d'un probable emprisonnement, on va m'accompagner chez moi pour que j'y prenne quelques affaires de toilette et des vêtements. Je monte en voiture, encadré par deux gendarmes. Nous arrivons à ma chambre, rue Jean-Romain. Il n'est plus temps de m'apitoyer sur mon sort, mais je dois me tenir sur mes gardes pour faire face. À ma descente de voiture, les passants s'arrêtent, se retournent. Ils se demandent ce qu'il se passe. Ils sont étonnés de voir une jeune fille, apparemment une adolescente, entourée de gendarmes. Ces derniers m'accompagnent jusqu'à ma chambre. Sous leur regard attentif, voire soupçonneux, je prends des vêtements, des affaires de toilette que je glisse à la va-vite dans une valise. Déjà, nous partons vers le tribunal. Je suis toujours accompagné de mes deux cerbères. À mesure que nous nous rapprochons du centre-ville, les rues deviennent plus animées. Les canets, en grand nombre, vont et viennent sur les trottoirs des artères les plus commerçantes de la ville. Malgré la guerre, malgré les difficultés du ravitaillement, ils vont aujourd'hui réaliser des prodiges pour fêter Noël en famille. Ils entrent et sortent des magasins avec provisions et cadeaux. Ils sont libres. Je les envie. Parmi eux, faisant leurs achats, se trouvent de nombreux soldats allemands.